Salon de la copropriété, les 6 et 7 novembre 2024 à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Trieux Combaluzier et Axéo, sur Radio Immo.
Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Immo. Et oui, comme vous le voyez, nous sommes toujours au Salon de la copropriété à la Porte de Versailles, puisqu'on vous fait vivre cet événement pendant 2 jours. J'ai le plaisir d'être avec Sylvain Gratalou. Bonjour.
Bonjour.
Président de l'UNPI, vous défendez les propriétaires et ils en ont besoin en ce moment.
Et oui, il faut défendre les propriétaires dans un contexte qui est bien compliqué les concernant. Alors ça fait... C'est amusant, ça fait 130 ans que cette association existe, ouais. L'Union nationale des propriétaires immobiliers, l'UNPI. Mais je crois que durant toute cette période, c'est la première fois que la propriété est autant menacée et des propriétaires autant atteints. Je crois que les premiers moments un peu difficiles, c'est lorsqu'on a adopté la loi en 1982, puis la loi de 1989 sur les baux d'habitation, ouais. Où là, les Français ont rejoint l'UNPI d'une façon massive, considérant qu'effectivement la propriété était atteinte et le droit de propriété était limité. Et là, je crois que c'est bien pire que ça n'a été. C'est-à-dire que tous les compartiments de la propriété sont atteints et il n'y a pas un jour sans que l'on parle d'une limitation du droit de propriété.
Alors, pour être clair avec nos auditeurs, hein, l'UNPI, donc, vous l'avez dit, hein, l'Union nationale des propriétaires immobiliers, vous défendez les propriétaires. Donc, n'importe quel propriétaire peut devenir adhérent, alors que ce soit un propriétaire de sa résidence principale, un propriétaire bailleur. On devient adhérent très facilement. Et une fois qu'on est adhérent, on est accompagné, on est soutenu. On peut assister Absolument. À des assemblées générales. Voilà, c'est vraiment pour soutenir les propriétaires. Hein. Ça marche comme ça.
Et l'UNPI a plusieurs missions. D'abord, c'est une fédération composée de 80 chambres sur le territoire national, des chambres qui se trouvent d'une manière assez équilibrée sur tout le territoire, avec évidemment de grosses chambres dans les métropoles, des chambres plus moyennes, puis de petites chambres aussi. Et l'objectif est double. C'est d'une part d'accompagner les propriétaires pour les informer, les conseiller, notamment dans un contexte où la prolifération législative aboutit à ce que ce soit très très complexe et qu'on ne peut pas tout seul
tout savoir
et puis gérer ses biens ou même en tant que propriétaire occupant, éviter de commettre des erreurs. Et puis, il y a un deuxième volet qui est très important, c'est aussi la défense de la propriété. Il faut savoir que le droit de propriété est un droit fondamental. C'est un droit à valeur constitutionnelle qu'on trouve sur l'ensemble, dans l'ensemble des déclarations ou conventions nationales ou européennes, voire internationales. Le droit de propriété est un droit fondamental. Et aujourd'hui, eh bien, en réalité, il est menacé.
Il est menacé par le droit au logement.
Alors, il est menacé par le droit au logement, alors même, et c'est là où le message est extrêmement important, le droit de propriété est un outil au service du droit au logement. C'est-à-dire que quand on est propriétaire, qu'est-ce qu'on est ? On est propriétaire occupant, donc on se loge soi-même et on dispense la collectivité de venir loger ses propriétaires. Et puis, quand on est propriétaire bailleur, on loge les Français. Et un locataire, quand il est logé par le propriétaire, eh bien, le droit au logement est satisfait. Donc c'est une erreur d'opposer le droit de propriété au droit au logement, mais il faut considérer que le droit de propriété est un outil au service oui. du droit au logement. Et de ce point de vue-là, et je l'évoquais ce matin, j'essaie de le rappeler à Mme Lenis qui était passée nous voir, c'est de dire qu'en fait, un propriétaire, c'est quoi ? C'est un acteur économique, notamment quand il est bailleur. Parce que lorsqu'on a un ou deux biens en location, on fait intervenir des quantités d'entreprises.
Bah, bien sûr.
Que ce soit des plombiers, des électriciens.
Puis on loge quelqu'un, on loge des Français.
Ça, c'est le deuxième volet, c'est le côté social.
Bien sûr.
Mais aussi le côté économique en faisant
des travaux. Bien sûr.
Et les travaux, qu'est-ce que c'est ? C'est de la richesse. Ouais. La richesse, c'est de la TVA. C'est aussi des entreprises qui ont besoin d'embaucher, donc des cotisations sociales, etc., etc. Un volet social, effectivement, puisque on loge quand même, le parc privé correspond à 25%, c'est-à-dire 70% des Français sont logés dans le parc privé. Donc, en fait, 70% des Français logés dans le parc privé, plus nos 35 millions de propriétaires, on a un parc privé qui est essentiellement acteur du logement. Et puis, il y a un volet environnemental qui est très important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, C'est le propriétaire qui rénove son patrimoine. Le patrimoine français dont les touristes sont aussi, je veux dire, ravis de visiter. Les 9 à 10 millions de touristes qui viennent chaque année, ce sont des touristes qui lèvent les yeux au ciel et qui voient des façades absolument splendides, etc. Ça, ce sont les propriétaires qui rénovent le patrimoine français. Mmh. Donc, quand on est un acteur économique, un acteur social, un acteur environnemental, on ne peut pas être négligé, surtout lorsqu'on a 35 millions de propriétaires qui, à la fois, sont occupants et logent des Français.
Alors justement, j'aimerais revenir sur ce droit à la propriété. Hein. Vous l'avez dit, de toute façon, c'est un droit fondamental. C'est inscrit dans la DDHC. Justement, quand vous entendez, en plus vous êtes avocat, quand vous entendez certains députés qui disent, parce que bon, la propriété c'est l'usus, hein, le droit d'utiliser, d'abuser aussi de son bien, hein, abusus et fructus, voilà, de percevoir les loyers, les fruits de ce bien. Quand vous entendez certains députés qui disent, bon bah on va obliger certains propriétaires de certains logements à les louer d'une certaine manière, faire du logement social, ça réveille pas l'avocat qui est en vous, enfin c'est quand même aberrant d'entendre ça, enfin c'est une atteinte, hein, au droit de propriété.
C'est une atteinte au droit de propriété, il n'y a aucun doute. Simplement, ce qui me dérange surtout, c'est que le diagnostic est souvent faux et les solutions proposées
ne sont pas bonnes.
Ouais. Je reviens à propos au meublé touristique. On veut taxer le meublé touristique considérant que c'est lui qui est à l'origine de difficultés pour avoir du logement longue durée. Mais c'est une erreur, parce qu'il faut savoir quand même que 95% des meublés touristiques, ce sont des meublés de propriétaires occupants qui, durant l'année, s'absentent quelque temps. Mais si on supprime ce type de meublé touristique, ces propriétaires occupants ne remettront jamais leurs biens sur le marché, puisque ce sont eux qui sont occupants. Donc ça reste très marginal. Je crois qu'aujourd'hui, on raisonne, et on le voit bien dans les discussions sur le projet de loi de finances, ça part dans tous les sens.
Ah oui, c'est sûr.
Absolument, tous les sens. On fait le grand écart en permanence, il n'y a aucune cohérence.
Faut taxer les propriétaires.
Le seul point commun, c'est ça.
Faut taxer les propriétaires.
C'est ça. Faut taxer les propriétaires, considérant que ce sont eux qui sont à l'origine de ce déséquilibre.
Et qui ont de l'argent.
Ouais. Mais c'est là aussi une erreur. D'abord, le déséquilibre, tous les systèmes ou tous les compartiments de notre société sont dans des déséquilibres. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, quand on a un système qui est déséquilibré, eh bien, chacun va sauver sa peau. Les propriétaires sauvent leur peau aussi. Quand vous avez une augmentation de la taxe foncière qui en 10 ans est de 33%, vous imaginez bien que parallèlement, si on met un encadrement des loyers, il y a un déséquilibre qui se met en place. Et un propriétaire, lui, à un moment donné, il ne peut plus. Et il y a une forme de paupérisation des propriétaires, ce qui est d'autant plus gênant que ces propriétaires constituent la classe moyenne. Et cette classe moyenne, c'est elle qui peut relancer la croissance économique. Donc en venant la fragiliser, en la paupérisant, eh bien finalement, on va accroître la situation dans laquelle on est.
Et vous qui êtes en contact avec les propriétaires, donc vous l'avez dit, il y a un maillage sur toute la France. Dans quel état d'esprit sont ces propriétaires quand vous parlez de la classe moyenne, des petits propriétaires? Dans quel état d'esprit sont-ils, vous qui leur parlez? Alors quand je dis vous, c'est l'UNPI. Hein, quelle est la température? Est-ce qu'on peut prendre la température avec votre
tour? Bien sûr. Alors, le terme petit propriétaire, je l'aime bien et en même temps, je ne l'aime pas, parce que ça laisse penser qu'il y a des gros propriétaires. En fait, l'UNPI s'occupe de tous les propriétaires. Les propriétaires qui, effectivement, ont un bien résidence principale, un ou deux biens éventuellement en location, et puis il y a les propriétaires dimensionnés. Ceux-là sont beaucoup moins nombreux. Donc, en fait, c'est une France de propriétaires. Il n'y a pas de petits et de gros propriétaires. Alors, ce qu'ils perçoivent, c'est qu'en fait, ils disent on n'est pas assez pauvre pour bénéficier d'aide, mais on n'est pas assez riche alors qu'on nous taxe. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont l'impression d'être la vache à lait de l'État. Ouais. C'est-à-dire d'être sans arrêt à avoir à assumer les carences de l'État, c'est-à-dire l'incapacité pour les pouvoirs publics de relancer une croissance économique, d'aller chercher des sous là où il y en a pour combler des déficits qui sont extrêmement nombreux. Il y a un ras-le-bol, une colère, et surtout, pour certains, il y a un découragement. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ces propriétaires sont souvent des propriétaires âgés qui ont pu, à un moment donné, faire l'acquisition d'un bien.
Ils ont travaillé toute leur vie
et qui se disent, à la retraite, au moins, j'aurai un complément de revenus qui pourra venir. et surtout de ne pas demander quoi que ce soit à la collectivité. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ont construit leur retraite. Et quand on voit que ces compléments de revenus fondent, je donne un exemple, sur un bien qui est de, dans une simulation qui est de 300 000 euros, avec des revenus fonciers, donc un loyer de 1 000 euros par mois, ça fait 12 000 euros annuels. Quand on intègre toutes les dépenses effectuées par le propriétaire, à la fin de l'année, impôt sur le revenu compris, on a 11 000 euros. Ça veut dire qu'en fait, quand vous percevez 12 000 euros de revenus fonciers, de loyer, vous avez dépensé 11 000 euros. Donc on a un complément de revenu qui est de 1 000 euros annuels. Vous divisez par 12, vous voyez très vite ce qu'il en est.
Alors, avec le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Alors ils se disent finalement, ou bien je garde et puis je dis à mes enfants, ben, vous allez récupérer tout ça. Mes enfants vont dire, moi, enfin, tout ce qu'on entend sur la propriété, ça ne donne pas envie d'être propriétaire. Ou alors, ils vont vendre. Ils vont vendre et puis placer cet argent. Parce qu'il y a un autre problème là aussi. C'est un déséquilibre fiscal ou une inégalité fiscale qui est extrêmement importante. Aujourd'hui, la richesse qui est taxée, elle se limite à la fortune immobilière. C'est-à-dire que dès l'instant où vous avez des biens immobiliers, l'accumulation ou la somme de l'ensemble de la valeur de ces biens aboutit à ce que vous payez un impôt sur la fortune immobilière. Mais une autre richesse, c'est-à-dire des placements financiers, des œuvres d'art, des yachts ou des choses comme ça, ne sont pas des biens immobiliers. Donc ils sont exonérés de cet impôt sur la richesse.
Donc oui, c'est vrai qu'il y a une injustice.
Mais il y a une injustice parce qu'elle est, on stigmatise les propriétaires. Et puis l'autre injustice, c'est ce que je disais en amont, les propriétaires, eux, ne coûtent rien à la société en se logeant. Donc ils rendent service d'une certaine manière à la collectivité. Ils ont un rôle social, c'est-à-dire que ce sont des vraies actions économiques. Mmh. Et pour autant, on les taxe. Alors que celui qui a des œuvres d'art, ben lui, il n'a rien à faire, il n'apporte rien à la société, aucune plus-value, et pourtant, il n'est pas taxé. Mmh. Et on peut le voir quand je vois à la bourse, les rendements qui sont, je crois, pour l'année dernière, on était à 14%, cette année à 12%, sans rien faire. Il n'y a pas de taxation derrière, il n'y a pas d'impôt. Mmh. Mais c'est absolument honteux. Alors que nos propriétaires, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent les locataires, ils essayent de faire en sorte que le bien, il y a un état des lieux d'entrée qui soit correct, de réparer la table de cuisson lorsque celle-ci est défectueuse, de rénover, parce qu'on impose une rénovation et qui me semble tout à fait normale compte tenu de ces transitions écologiques. Et pour autant, en plus, en jouant ce rôle-là, ils sont taxés.
Alors, on a vu sur LinkedIn que vous avez pu échanger avec la ministre du Logement,
oui.
Ministre de plein exercice, je tiens à le préciser. Qu'est-ce qui s'est dit? Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être entendu, écouté?
Entendu, écouté. En tout cas, Mme Attard s'est déplacée sur le stand de l'UNPI, ce qui est un honneur, et je l'en remercie vraiment. Elle m'a écouté, il n'y a pas de doute. Et j'ai surtout insisté sur le fait qu'aujourd'hui, les propriétaires qui constituent ces 35 millions de Français doivent être entendus et surtout compris et considérés. Et que notre société ne peut repartir que si ces propriétaires retrouvent certaines perspectives et une envie d'être propriétaire.
Une
envie
aussi,
d'investir. Et tout ça passe par une confiance. Ouais. Et aujourd'hui, les mesures qui sont prises sont des mesures qui découragent. Alors, bien évidemment, Madame la ministre a répondu qu'elle avait bien entendu, qu'elle fera le nécessaire pour considérer les propriétaires, et on devrait d'ailleurs se rencontrer très bientôt, où là on pourra davantage aller dans le détail. Ce qui manque, si vous voulez, et je ne sais pas si elle en aura la possibilité, c'est de pouvoir avoir le temps de construire une vraie politique du logement. Aujourd'hui, et encore une fois, dans cette discussion sur le projet de loi de finances, on a 13 groupes parlementaires qui balancent des amendements dans tous les sens, sans concertation, sans cohérence. Je crois qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. On a une société qui est malade. Ce n'est pas par des petits pansements par-ci, par-là qu'on va la soigner. Il faut très clairement, se poser la question de savoir ce que sera l'habitat demain et de construire une politique
ensemble
et sur du long terme.
Et ne pas avoir cette vision manichéenne, le méchant propriétaire et les gentils locataires.
Et le salon de la copropriété est un bel exemple, parce que ce matin, en fin de matinée, il y avait les prix de l'innovation qui étaient remis, et je faisais partie du jury. Quand je vois toutes ces idées que les jeunes peuvent avoir pour améliorer l'habitat, on voit bien que la propriété et la copropriété sont en mutation.
Oui, bien sûr.
Mais on ne peut pas fonctionner ou emmener les copropriétaires vers un paradigme nouveau sous la contrainte et la sanction. il faut les accompagner. Il faut les accompagner et une mutation, elle se fait de façon, douce. Elle ne doit pas se faire non plus d'une façon légère et laxiste, mais il faut comprendre quand on a été dans un système pendant des décennies et que du jour au lendemain, on demande de changer, c'est très compliqué. Sans parler qu'en matière de copropriété, on n'est pas tout seul, on est avec les autres. Il y a un mécanisme qui est celui de la loi de 65 avec les assemblées générales qui ne sont pas évidentes, des intérêts et des enjeux qui ne sont pas forcément convergents. Je faisais une conférence ce matin sur les bornes électriques qui sont importantes. Mais pour les jeunes générations, avoir un véhicule électrique semble une évidence.
Ouais.
Pour les autres générations, ce n'est pas une
ça
évidence.
Moins, ouais.
Donc quand
ouais.
il faut voter pour l'installation d'une borne électrique, il y en a qui vont dire « Allez, si, il faut y aller parce que c'est important, c'est même fondamental. » D'autres qui vont dire « À quoi bon, moi j'ai un véhicule thermique, ça sera mon dernier véhicule, je ne vais pas dépenser pour ça. » Donc il y a vraiment là une phase de transition qui est difficile à passer. Qui est très difficile.
Alors après, on vient de faire une interview juste avant avec Logivolt. Ils ont des solutions de financement. Pour ceux qui ne veulent pas utiliser les bornes de recharge, ne payent pas.
Voilà, oui.
Ils financent. Donc la société évolue, donc c'est bien de voir que pour certains domaines, ça marche, le vivre ensemble. Faudrait que ça soit plus large, ça se répande
plus large, et que les propriétaires mesurent qu'en fait, tous ces changements, c'est la valorisation d'un bien.
Mmh.
Ou plutôt, c'est la non-dépréciation d'un bien.
Oui, bien sûr.
C'est la valorisation d'un bien.
Pas forcément, c'est un peu compliqué, mais en effet, non-dépréciation d'un bien.
Si vous voulez, vous avez un jeune qui veut acheter un appartement, il a un véhicule électrique, il va commencer par faire l'inventaire des biens à la vente qui ont des bornes électriques faciles dans les garages ou en collectif. S'il n'y a pas ça, on va dire bah non, je ne veux pas changer de véhicule et tant pis, je n'irai pas dans cet appartement-là. Donc, au contraire, ça permet de mettre à niveau des biens pour qu'ils correspondent à une réalité qui est celle d'aujourd'hui de demain et d'éviter, si on ne le fait pas, d'avoir une dépréciation et que ce soit après des appartements qui soient bradés et là, tout le monde aura perdu.
Et alors, dernière question, Sylvain Grataloup, on parlait du rent, hein, donc vous avez, du salon de la copro, pardon, vous avez eu le privilège de recevoir la ministre du Logement, Valérie Létard. Un petit mot peut-être sur cette édition 2024. Est-ce que vous êtes satisfait cette année de ce salon? Est-ce que vous aviez des attentes par rapport à cet événement? Est-ce que les objectifs ont été atteints?
Pour moi, c'est un succès. C'est un succès cette année, notamment par rapport à l'année dernière. Et puis je suis loin d'être le seul à penser, qui est largement partagé.
Ouais.
Il y a eu beaucoup de visiteurs. Beaucoup de visiteurs se sont arrêtés sur le stand de l'UNPI, ce qui n'est pas forcément rassurant, parce qu'il y a des préoccupations.
Ouais.
Mais en tout cas, ça a tout l'intérêt du salon de la copropriété. Et je trouve aussi des exposants qui sont dans une dynamique, je veux dire, plus positive. C'est-à-dire qu'à travers une volonté de collaborer, je vois l'UNPI travaille beaucoup avec l'UNIS, avec la FNEM notamment, et puis d'autres exposants qui sont là, qui apportent leur savoir-faire à nos propriétaires, et une volonté de travailler ensemble au service des Français, c'est-à-dire des propriétaires, qu'ils soient copropriétaires ou propriétaires tout seuls. Le marché ne fonctionne pas très bien, il faut savoir quand même que c'est le propriétaire qui le fait, c'est lui qui achète, c'est lui qui vend. Donc si on redonne confiance à tous ces gens-là en les invitant à s'inscrire dans une dynamique qui est positive, je suis persuadé que le marché repartira et que la situation dans laquelle on se trouve sera derrière nous.
Eh bien, merci infiniment Sylvain Grataloup pour cet entretien. On se retrouve tout de suite avec Jean-Baptiste Venin pour d'autres interviews, d'autres émissions sur le salon de la copropriété avec Radio Immo.
Le salon de la copropriété, les 6 et 7 novembre 2024 à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Drieux Combaluzier et Axéo sur Radio Immo.